Vous écoutez RTL.
Et comment nos présidents ont failli face au terrorisme? C'est le sous-titre du livre dont notre invité est l'auteur. Bonsoir Vincent Nouzille.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste d'Investigation indépendant. Le titre de votre livre, c'est « Erreur fatale » aux éditions Fayard. Pour vous, si on en est arrivé là, à cet état de guerre contre le terrorisme, c'est parce que tous les présidents de la Ve République ont pris des mauvais chemins. C'est vous qui révélez la quarantaine d'assassinats ciblés ordonnés par François Hollande depuis qu'il est président de la République. Ça veut dire des assassinats ciblés, quelles consignes il a donné en dehors de tout cadre légal et pour quelle efficacité finalement?
Alors c'est la question de l'efficacité est dans le fond centrale, puisque évidemment si l'on décide d'éliminer, de neutraliser comme on dit des chefs terroristes, évidemment il y a un côté symbolique, un côté politique dans le fait que François Hollande les confirmait d'ailleurs à deux de mes confrères du Monde. Moi, ce que j'arrive, c'est dans le compte que j'avais fait des gens qui ont été tués, c'est au moins une quarantaine. Il y a là-dedans des chefs djihadistes du Sahel, donc c'est en marge des opérations classiques militaires, donc là, elles ont un cadre légal qui est relativement bordé, si je puis dire.
Ouais.
En revanche, en Syrie, là, on est intervenu sur des bases légales qui sont beaucoup plus floues juridiquement, et donc là, la question de l'exécution ciblée, de la frappe ciblée, évidemment, les états-majors n'osent pas dire ils font des frappes nominatives, mais la réalité, c'est que quand on a commencé à frapper en Syrie à partir de septembre-octobre 2015, donc il y a un peu plus d'un an, on a effectivement eu des listes de gens que l'on voulait absolument éliminer. Il s'agissait en l'occurrence d'Abdelhamid Abaoud, l'un le commanditaire, je veux dire l'orchestrateur des attentats du 13 novembre. On l'a loupé là-bas et on savait qu'il était en fait déjà revenu en Europe. Et puis, il y a aussi le troisième volet, ce sont ces assassinats ciblés qui se font de manière beaucoup plus clandestine, dans des zones grises. Ça peut être en Libye, ça peut être au Yémen, ça peut être en Somalie. Soit on les fait de manière clandestine, par la DGSE, le service secret, soit on va demander aux Américains, et ça c'est une grande nouveauté, de tuer nos cibles à notre place avec leurs drones armés.
Alors, vous écrivez qu'il y a eu des alertes avant les attentats que nous avons connus. Ils étaient connus des services de renseignement, les auteurs, peu ou prou. Justement, vous posez éminemment la question de la faille des services de renseignement et vous revenez sur la réforme ratée, vous l'écrivez comme ça, de Nicolas Sarkozy.
Oui, c'est une des grandes erreurs du président Sarkozy, c'est d'avoir voulu instituer cette direction centrale du renseignement intérieur appelée DCRI, dont il avait confié les clés à Bernard Squarcini, et puis d'avoir, de ce fait, délaissé complètement le renseignement de terrain, dans le fond, les signaux faibles de l'islam radical dans les banlieues. Et entre 2008 et 2014, on a quasiment perdu tous les capteurs de ce qu'on appelle le djihad domestique, c'est-à-dire les convertis de l'islam qui voulaient partir faire le djihad en Syrie ou en Irak, et qui donc, on a perdu ces capteurs, on n'a pas été capable de les détecter. Et l'affaire Mera est venue cruellement nous rappeler. Mais malheureusement, on n'a pas tiré les leçons de l'affaire Mera. Et en 2015 non plus, on n'a pas tiré la leçon ni des failles de l'affaire Kouachi Koulibaly, ni de Abdelhamid Abaoud.
Alors si on remonte encore un peu plus loin dans le temps, mais si on parle toujours des services de renseignement, vous pointez le point commun entre Jacques Chirac et François Mitterrand, à savoir leur non-confiance quasi absolue dans les services.
Oui, pendant donc 26 ans, pardon, on a eu deux présidents qui se sont méfiés entre 1981 et 2007, méfiait profondément des services de renseignement. Il voulait quasiment pas s'en occuper. Et donc, dès qu'il a été question de vouloir peut-être mieux coordonner le renseignement, qui est une des grandes failles actuelles du système, eh bien, ils ont toujours repoussé à plus tard ce type de questions, ce type de réforme. Le président Mitterrand avait même eu une initiative complètement malheureuse, maladroite, qui était de créer une cellule spéciale à l'Élysée composée de ses propres gendarmes, qui a complètement dérivé. Et quelque part, cette cellule antiterroriste de l'Élysée de 1982 a probablement tué toute idée de coordination centrale de la lutte antiterroriste en France. Aujourd'hui, il n'y a pas de pilotage du renseignement en France, il n'y a pas de pilotage de la lutte antiterroriste en France. Tout ça est éparpillé, il y a un cloisonnement, il y a des redondances, il y a un problème de communication entre les services. C'est extrêmement grave et on n'a rien réparé de cela depuis 2015.
Tout ça avec en toile de fond, et c'est très intéressant de le noter, une marginalisation des juges constante, ils sont mis au rebut.
Oui, alors contrairement à ce qu'on voit apparaître, ce que le procureur de Paris, François Molins, ce qu'on voit très souvent après les attentats, derrière cette façade, il y a eu un effacement des juges. Le premier coupable, si je puis dire, de cet effacement, c'est Nicolas Sarkozy lui-même, puisqu'il avait une haine farouche du juge d'instruction, il voulait le faire disparaître. Il y a eu une résistance. Alors, il a contourné l'obstacle, il a fait monter le parquet en délaissant un peu le juge pour que les juges soient, dans le fond, submergés par les dossiers qui n'aient plus beaucoup d'initiatives. Et puis, il a renforcé le renseignement de manière massive avec le renseignement intérieur, si bien que le rapport de force qui a pu exister pendant longtemps entre juges, police, justice, renseignement, est maintenant totalement déséquilibré au détriment de la justice.
Au vu de tout ce que vous avez constaté et donc écrit, comment on se sort aujourd'hui de cette incapacité à lutter contre la montée du djihadisme en France ?
Ben, très clairement, les alertes qui ont pu être lancées depuis, dans plein de rapports que je cite d'ailleurs, sur la prison, sur les banlieues, sur la montée du salafisme, tous ces signaux faibles, on le sait depuis plus de 20 ans, depuis l'affaire Kelkal, souvenez-vous, en 95. On le sait, et lorsqu'il y a eu l'affaire Merah, les policiers, les ministres et le président Sarkozy, tout le monde a parlé d'un loup solitaire indétectable. Non, il n'était pas indétectable, je le raconte dans le livre. Et il faut absolument avoir des signaux, il faut monter plus de programmes de déradicalisation, de lutte contre cette radicalisation. Aujourd'hui, on en est à l'état à peu près zéro sur ces questions-là, alors qu'on sait que le problème est majeur.
Et le défi est grand. Je vous remercie mille fois, Vincent Nouzi, d'être venu nous rendre visite dans RTL Soir. Et je rappelle le titre de votre livre, Erreur fatale, c'est aux éditions Fayard. Merci mille fois.
Merci à vous.